Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'équipe de Radio Sommière vous emmène à la cave du Gard sur Nîmes à la rencontre des lauréats du concours Innove Jeunes. Les récompenses concernent des projets individuels ou collectifs à l'initiative de jeunes gardois de 11 à 26 ans. Retrouvons Didier Paquette, président du conseil d'administration de la cave du Gard, afin d'en savoir plus.
Le président de la CAF représente la caisse de sécurité sociale, donc la caisse d'allocation familiale, dans les manifestations comme aujourd'hui pour ce prix d'innovation des jeunes et je dirais dans presque tous les actes administratifs, juridiques et de négociation aussi auprès ou avec des partenaires divers et variés. La principale aussi fonction, c'est de présider un conseil d'administration qui, lui, donc, est multiple et composé effectivement de divers partenaires, donc dit organisations patronales, organisations syndicales, personnes qualifiées, mais aussi représentants des associations familiales. Être président du conseil d'administration, pour moi, c'est un rôle très important. C'est aussi être aussi un peu, l'arbitre des débats.
Pouvez-vous expliquer en quoi consiste le projet Jeunes?
Alors, le projet Innovation donc Jeune, c'est un projet qui... d'abord, il y a un appel à projet. Sur l'année précédente, appel à projet d'innovation projet jeune, pour mettre pourquoi en valeur, effectivement, donc des projets que concoctent effectivement les jeunes avec leur animateur, avec leur éducateur, avec leur partenaire, avec leur professeur, dans divers domaines, et les mettre effectivement en valeur. Et la CAF du Gard, la Caisse d'allocation familiale du Gard, a ce privilège effectivement chaque année de remettre, comme aujourd'hui, plusieurs prix de l'innovation, un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix et un prix spécial citoyenneté. Et je dirais que c'est un moment fort pour la Caisse d'allocation familiale et j'en suis ravi parce que c'est un moment fort entre l'ensemble des services, le conseil d'administration, le président que je suis, les administrateurs donc, qui représentent les allocataires dans leur globalité, avec les jeunes et leurs projets. Un échange pour moi très important, très enrichissant.
Comment choisissez-vous vos lauréats ?
Nous sommes constitués un jury, au niveau de la caisse d'allocation familiale. Le jury donc était constitué cette année du président que je suis, des trois vice-présidents et du chef de service du pôle social, qui est un manager, qui est un administratif de la caisse d'allocation familiale. Et il y a donc on établit donc des critères, une grille d'évaluation, et on débat effectivement sur les dossiers. On essaie de les classer en catégories numéro 1, 2 et 3 et suivant effectivement des critères qui sont souvent liés à des critères de qualité.
Comment et quand peut-on s'inscrire au projet jeune ?
On peut s'inscrire donc dès l'appel à projet jeune, c'est-à-dire pour 2025, on pouvait s'inscrire en 2024. Vous avez la possibilité, les jeunes ont la possibilité, à travers une communication qui est faite par la Caisse d'allocation familiale à destination des partenaires variés, associatifs, éducation nationale, collège, lycée, etc. Et vous avez la possibilité, effectivement, de saisir l'occasion de monter un projet, de vous associer avec soit des professeurs, soit des animateurs, des tuteurs qui sont des en général donc des personnes un petit peu plus âgées et qui vont vous aider dans la construction de ce projet. Et vous voyez qu'on aboutit vraiment à des projets comme aujourd'hui, remarquables en qualité, en technicité, en émotion. C'est le cas du premier projet du Siscavar, mais aussi pour les autres, en qualité et puis en innovation, comme le second projet sur les vieilles bécanes, vintage, comme diraient les jeunes.
Pouvez-vous nous présenter la mine, ce lieu dans lequel nous nous trouvons actuellement ?
Très rapidement, donc la mine, c'est une salle Donc, de Réunion, qui est très mobile, hein, et qui est, vous le voyez, donc constitué d'éléments, hein, qui sont, je dirais, aux normes up-to-date, hein, aux normes très nouvelles environnementales. Et ça, c'est une réussite, je dirais, et un plus au niveau de la Caisse d'allocation familiale du Gard, puisque cette salle est extrêmement donc, demandée, réservée par des associations, par des partenaires divers et variés. On y fait de l'informatique, de la formation, je dirais, professionnelle, de la formation tout court. C'est une salle modulable, hein. Puis vous voyez, donc elle est chouette, hein, elle est très claire, donc on a envie de travailler dans cette salle.
Quel conseil donnerez-vous à un groupe de jeunes qui souhaiteraient monter un projet ?
Monter un projet, c'est une très belle idée, mais il faut s'organiser, il faut y réfléchir, à la fois sur le contenu, organiser aussi des réunions, hein. Et puis se fixer aussi une orientation, je dirais, précise. Quel objectif on veut aussi atteindre dans ce projet ? Est-ce qu'on veut atteindre les jeunes, les autres jeunes ? Est-ce qu'on veut atteindre un public un petit peu plus âgé ? Voilà, je dirais, il faut y penser, il faut y réfléchir. Et croyez-moi, donc, tous les projets que j'ai pu voir depuis que je suis élu, c'est-à-dire depuis le 7 avril 2022, ont tous été élaborés, bien élaborés, et ils ont été diversement élaborés dans divers domaines. Et c'est là tout l'intérêt. C'est là tout l'intérêt de. Mais il faut poursuivre, hein, il faut travailler, et on arrive à des résultats. Je dirais, moi, je suis toujours, disons, en admiration sur ces projets du public jeune, hein, j'appelle, et vous avez pu le voir, hein, aujourd'hui avec ces remarquables projets, ces remarquables quatre projets qui vous ont été présentés. Hein. Encore bravo à ceux qui les ont élaborés et bravo à notre jeunesse, hein, parce que vous êtes aussi le futur. Hein.
Alors, notre projet, c'est un projet de voyage associatif et solidaire à Reims. Et donc, un des buts principaux du voyage, c'est de rencontrer des associations, parce qu'on est nous-mêmes une association de solidarité à plusieurs échelles. Donc, on fait des actions de solidarité dans l'intérieur du collège, à Nîmes, on a fait ce voyage à Reims, et on aide aussi le Liban. Et donc un de mes objectifs du voyage à Reims, c'était de découvrir les autres associations, d'aider les autres associations et un peu de s'en inspirer ou voilà, de voir comment ça marche, les différentes modalités dans les différentes associations. Dès le début, parce que nous on est à la saison 2, donc il y avait une saison 1 avant, qui avait déjà noué un partenariat avec le Liban, donc on a continué ce partenariat. Nous on a continué, on a créé un deuxième projet, qui est ce projet de voyage à Reims, qui s'est construit sur 2 ans. Et la première année a été dédiée à la cohésion du groupe et à la récolte de fonds. La deuxième aussi, on a récolté des fonds, on a planifié le projet. C'est là qu'on a décidé d'aller à Reims parce qu'on avait des contacts avec des associations là-bas. Et après, on a contacté les associations, cherché un logement, etc. pendant 1 an. Et continué à chercher on faisait des collectes de fonds, on a aussi demandé des subventions. Et on collectait de l'argent avec des petites actions, vendait des crêpes, aux réunions parents-prof, etc. Une des difficultés, ça a été que certaines personnes qui étaient là au début du projet sont parties au fur et à mesure. Bon, ça, on a dû faire avec. Durant la conception du projet, on n'a pas eu trop de difficultés. Il y a des moments où on avait prévu de faire ça, bah, ça se fait pas, bah, on a surbondi, etc. Il n'y a pas trop de difficultés. Sinon, une des difficultés principales pour certains, ça a été de s'adapter à la vie en communauté. Parce que vivre 10 jours avec 18 en tout, et s'occuper, s'organiser, et sachant que c'est pas juste on nous dicte qui va s'organiser, on s'organise tous ensemble, et pour différentes tâches, etc. Ça, c'est un peu compliqué, mais on a su faire avec, et puis c'était quand même très marrant.
Quelles ont été les répercussions et les aboutissements ?
Bah, déjà, il y a eu une saison 3 de l'association qui est là. Et aussi sur les valeurs, ça véhicule pas mal de valeurs et des apprentissages et qui sont utiles dans toute la vie. Donc la solidarité, l'entraide, et la cohésion, c'est utile en général et pas que dans le cadre d'une association. Et voilà, puis on a aidé des gens, et notamment on a participé à ce qu'on appelle le Café Sourire, où c'est un café qui sert des petits déjeuners aux personnes sans-abri, gratuitement. Et donc là, les gens, ils nous disent merci, etc., de voir un sourire dans leurs yeux, alors qu'on sait que leur vie est très difficile. Ça, c'est une très belle récompense.
Moi c'est Dylan Beau, je suis animateur à Radio Sommière pour les Francas du Gard et en fait je suis l'animateur qui a pris en charge le projet de deux jeunes, Miles Beau et Clément Vera, anciens services civiques à Radio Sommière, ce projet du coup Petrolatcho, un projet autour de la mobylette, un projet intergénérationnel.
D'accord, et quelles ont été les différentes étapes dans la construction de votre projet ?
Alors les jeunes sont venus avec l'idée du coup justement de créer cet événement et de contacter le motoclub sommierois, motoclub existant depuis plus de 60 ans à Sommières, vers chez nous. Le but c'était qu'en fait ils avaient déjà un événement qui s'appelait le rassemblement des anciennes motos qui avait lieu le 22 octobre, enfin en tout cas dans cette zone-là tous les ans. Et on leur a proposé du coup de se rattacher à leur événement pour créer une journée autour de la mobylette qui a donné le Petrolatcho. Alors les différentes étapes ont été déjà de contacter les partenaires, de contacter également quelques sponsors. On a eu des pilotes de Mobcross qui sont venus tourner sur le lieu et de monter une équipe de bénévoles. Donc on a monté une équipe d'une vingtaine de bénévoles. On a fait pas mal de réunions d'organisation autour de la communication également, autour de l'affichage, de l'organisation générale, pour ensuite faire l'événement, j'ai envie de dire, et créer une association par la suite qui s'appelle Petrolads.
Avez-vous rencontré des difficultés lors de la conception ?
Oui, bien sûr, on a rencontré quelques difficultés, notamment au niveau de l'organisation du lieu, parce qu'il fallait qu'on fasse un lieu, qu'on organise le lieu de façon à pouvoir accueillir pas mal de stands. Le fait qu'il y ait des pilotes qui viennent, même si c'était pas une course, c'était une démonstration, il a fallu qu'on fasse appel à une Croix-Rouge, à un service de SAMU, qu'on mette en place des assurances via le motoclub de Sommières, parce que du coup, c'est interdit de rouler sur un circuit sans assurance. Donc on a eu quand même quelques difficultés, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé.
Quelles ont été les répercussions et les aboutissements ?
Alors, les répercussions, ça a été 1000 personnes sur la journée qui sont venues, à peu près. Donc c'était une franche réussite. Et après les aboutissements, y a une association, du coup, comme je disais tout à l'heure, qui s'est créée, qui s'appelle Petrolads, dans le but de reprendre le projet en association, parce que là, on est accompagné par les Francas du Gard en tant que projet jeune. Et donc, il y a une team de pilotes dans cette association qui s'est créée. Il y a eu 2-3 courses déjà avec 2-3 podiums de gagnés en Mobcross. Et donc, le but, c'est de faire continuer de vivre cet esprit.
Qu'avez-vous appris et quelles sont les compétences acquises ?
Moi, personnellement, j'ai renforcé mes compétences dans le milieu de l'organisation du festival, de la gestion globale de groupe. Je pense que pour tous les bénévoles et les membres de l'association, en tout cas dans le bureau, on a appris que c'était possible de partir un peu d'une idée comme ça autour d'une table un soir et d'arriver à faire un événement qui ramène autant de gens, même de connecter plusieurs cultures différentes qui n'ont pas forcément lieu d'être entre la radio et la mobylette et la moto. C'est pas forcément des univers qui sont en contact. Et que ça m'a appris aussi que, enfin, j'ai appris personnellement que vraiment, en tout cas, ça a renforcé notre idée que la mobylette et la moto, c'était des pratiques qui étaient vraiment intergénérationnelles et qui pouvaient vraiment réunir un maximum de gens.
Qu'est-ce que vous allez faire avec votre prix ?
Avec notre prix, tout simplement, on va s'en servir pour organiser le Petrolatcho numéro 2. J'ai pas encore la date, mais en tout cas, c'est en cours de réflexion pour refaire une journée comme ça, un week-end comme ça, Petrolatcho.
Donc bonjour, je m'appelle Mathis Bravomero, je fais partie de l'équipe Cyborg Bulls depuis 2 ans, la seconde. Et donc en fait, Cyborg Bulls, c'est une équipe de robotique participant à la First Robotics Competition, qui est une des plus grandes compétitions internationales de robotique et qui a pour but de promouvoir les sciences, les technologies, l'ingénierie auprès des jeunes d'une manière plus ludique.
Alors bonjour, moi je me présente, c'est Thomas Bollon, je suis en terminale à JBD et ça m'a du coup comme Mathis ma deuxième année dans cette équipe. Pour revenir sur l'équipe, notre équipe est là depuis 3 ans, mais sa première année était plutôt une année blanche sur le terme administratif. Et au niveau de la France, il n'y a que 3 équipes françaises qui participent à cette compétition. Il y a Lyon, auquel ça fait à peu près une douzaine d'années qu'ils sont dans cette compétition. Et l'équipe de Nice, les Geckos, qui sont là depuis, comme nous, 3 ans.
Bonjour, moi c'est Jessica Lao, je suis en terminale au lycée Jacques Prévert et ça fait également 2 ans que je fais partie de cette équipe.
Que la compétition se déroule donc tous les mois de janvier en fait. Donc début du mois de janvier chaque année, on a un live sur Twitch qui nous annonce ce qu'on appelle le jeu de l'année. Et donc dans cette vidéo, c'est là où on va avoir toutes les contraintes, tout ce que va devoir faire notre robot. Et donc à partir de là, on va avoir entre 6 et 11 semaines avant de partir donc pour nous au Canada participer à la compétition.
Est-ce que tu peux nous donner des précisions sur les contraintes des robots? Quel type de robot vous faites?
Alors, pour donner un ordre d'idée, les robots font environ 1 mètre cube et une cinquantaine de kilos.
Ça peut varier sur ce point parce que, en fait, chaque année, nous avons une problématique différente. Et du coup, chaque année, on a un cahier des charges différent. Donc, ça peut changer sur la longueur du robot, sur le poids du robot. Mais ça semble toujours à l'entour de entre 40 et 50 kg et le 1 mètre cube. On rencontrait plusieurs problématiques. D'abord, sur le point de vue du robot en lui-même, on a eu, pendant la compétition, beaucoup de casses, même pendant des entraînements. Donc, on a su trouver toujours un moyen d'y remédier le plus rapidement. Et sur le point de vue administratif, non, on n'a eu aucun autre problème sur ça.
Est-ce que vous pouvez décrire votre robot?
Alors, notre robot avait comme objectif de prendre ce qu'on appelle des notes. C'était plutôt des sortes de frisbees d'un diamètre de 23 cm. Et de les prendre et de les jeter à peu près à une cible de 2 mètres de hauteur. Donc, notre robot, en fait, avait un système de translation qui descendait, qui touchait par terre. Et avec un système de roues, récupérait cette note. Et après, nous remontons le chariot. Et ensuite, nous, avec 2 autres moteurs, nous faisons tourner des roues tellement rapidement que quand elle touche ce qu'on appelle la note, du coup, eh ben, ça la propulse assez loin pour marquer un maximum de points.
Qu'est-ce que vous avez appris comme compétences au cours de votre projet?
Les compétences qu'on peut apprendre sont très diverses. On peut avoir dans la mécanique, bon, par exemple la création de boîtes de vitesse, etc. Aussi la programmation, l'apprentissage de différents langages utilisés dans le monde professionnel, comme le Java ou le C++. Mais il y a aussi des talents en communication, comme par exemple l'aisance à l'oral, la confiance en soi, plein de compétences comme ça qui nous permettent de nous développer et nous préparer au monde professionnel.
Okay. Donc j'avais une petite question, est-ce que vous faites l'entièreté du codage, le robot physique lui-même, vous faites absolument tout?
En fait, notre club est divisé en 3 parties. Tu as une partie qui est réservée à tout ce qui est la communication, donc c'est eux qui tiennent notre Instagram, notre Facebook, notre LinkedIn. Tu as une autre partie spécialisée dans la programmation, du coup, où ils codent le robot de A à Z. Et pendant ce qu'on appelle les hors-saisons, c'est-à-dire après notre saison de notre compétition, nous avons divers exercices, ou sinon on essaie toujours d'améliorer un maximum notre robot. Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle la CAO. Mais cette CAO est divisée encore en 2 parties. Pour ma part, c'est plus le côté mécanique. Donc du coup, ça m'a extrêmement beaucoup appris sur le côté mécanique, ainsi que l'utilisation de divers outils, ainsi que de machines.
Du coup, pour la CAO, ça consiste tout d'abord à designer les pièces en 3D grâce à des logiciels comme Onshape, par exemple, pour nous. Suite à ça, on va essayer de reproduire ces pièces dans la vraie vie, que ce soit imprimé en 3D ou avec des pièces de récupération. Et avec ces pièces, on va pouvoir faire nos mécanismes. Et c'est donc la deuxième partie de la CAO, c'est tout ce qui touche à la technique et à la création de nos mécanismes.
Et qu'est-ce que vous allez faire donc avec le prix que vous allez gagner?
Alors l'argent qu'on reçoit dans l'association peut être utilisé de plusieurs manières différentes. Donc soit effectivement investir dans du matériel pour notre robot futur, soit par exemple payer une partie du voyage, par exemple l'hôtel ou quoi que ce soit, ou les frais directement là-bas, mais voilà.
Et est-ce que vous avez des nouveaux projets?
Alors l'un des nouveaux projets qu'on a lancé cette année, c'est donc la participation à la FTC, First Tech Challenge,
qui est la division entre guillemets juste en dessous de celle à laquelle on participe, qui est déjà plus répandue en France. Donc en fait c'est le même principe que l'AFRC, mais à une plus petite échelle. Donc là on parle de robots de 50 cm à peu près. Et là, c'est déjà beaucoup plus diversifié en France, avec plus de 80 équipes en France et même des propres compétitions sur le sol français.
Alors, moi, je m'appelle Elif, Elif Bikli, j'ai 15 ans. Et le projet, il se porte sur l'harcèlement. Et on s'est dit que pour faire un bon projet sur l'harcèlement, il fallait... avoir un support visuel, car le regard porte plus que les mots, en fait. Il fallait quelque chose qui en jette, quelque chose qui est flagrant pour que les gens y comprennent mieux. Et ce projet, il est parti sur, sur le centre aéré. Quand on nous a proposé de trouver un projet pour le harcèlement, on a direct dit un film. Et c'est parti comme ça, on a fait des tournages. On est allé dans un collège pour tourner, le collège Mourion. Et voilà, quoi.
Moi, je m'appelle Liam Ferrat, je suis en seconde au lycée Jean Villard.
Je m'appelle Robin Jaillet, je suis en seconde au lycée Saint-Joseph, j'ai 13 ans.
Au début, c'est parti d'une idée, pendant qu'on faisait un jeu de société dans une salle au Scavard, puis ça a évolué au fur et à mesure. Notre animateur, il nous a trouvé un caméraman, et on a commencé à tourner au fur et à mesure. On a changé de rôle plusieurs fois, chacun, et à la fin, pour aboutir à ce projet-là, on a présenté notre projet ici même. Ensuite, on a tourné au Scavard, puis ensuite, on est allé au lycée du Mourion, au collège du Mourion, pardon, pour tourner la fin de ce projet.
C'était juste présenté pour obtenir des subventions. On a fait deux interventions, une ici et une même au Scavard avec les principaux partenaires pour avoir de l'argent. Tout s'est déroulé comme prévu, on n'a pas vraiment rencontré de difficultés majeures. Le but, c'était de le faire diffuser dans différents collèges ou lycées ou même écoles primaires de France afin de faire justement une prévention anti-harcèlement. Parce que notre but premier, c'était justement de faire arrêter ou en tout cas fortement baisser les cas de harcèlement en France.
Est-ce qu'il y a des choses ou des compétences que vous avez appris au cours de ce film du coup ?
Oui, déjà, on a appris à jouer un rôle qui n'est pas forcément nous. On a changé de caractère, changé de prénom, changé de mentalité pour certains. Et voilà quoi, on a dû apprendre à être à l'aise devant une caméra. Surtout, il fallait pas regarder la caméra, du coup, il fallait vraiment jouer un rôle, il fallait se mettre dans le personnage. Et par exemple, moi, j'étais plus moi-même, il fallait que je sorte de ce rôle pour jouer un autre rôle. Et ça nous a appris à devenir quelqu'un d'autre, à jouer d'autres rôles, même si c'est pas forcément nous.
Est-ce que vous avez des projets à venir qui vont bientôt arriver, sur lesquels vous réfléchissez ou autre ?
On a bientôt plus l'âge d'aller au réseau ado, mais sinon après oui, ils pourraient continuer à faire d'autres projets comme ça, pour prévenir d'autres sujets peut-être, mais oui, ça pourrait continuer.
Merci à toutes et à tous pour toutes vos initiatives et vos projets. Si toi aussi tu habites dans le Gard, que tu as entre 11 et 26 ans, n'hésite pas à te renseigner auprès de la CAF du Gard pour proposer un projet qui te tient à cœur.